Chapitre 11. Audra venait d'hériter de sa première mission. Avant de retourner en salle de crise, Charcot lui avait remis les clés d'un véhicule banalisé et demandé de se rendre à l'adresse de l'entreprise propriétaire des palettes de bois située à Pierrefitte. 20 kilomètres, ce n'est rien, avait-elle pensé en prenant le volant. Mais c'était 20 kilomètres à Paris, et ici, on ne parlait pas en kilomètres, mais en heures, surtout en fin d'après-midi et avec une météo capricieuse. Elle s'était retrouvée piégée sur la Nationale 1, dans des bouchons, avec cette pluie qui martelait son pare-brise au milieu des grincements de freins et de la toux rauque des moteurs. Des paillettes de lumière rouge et blanche se dispersaient sur ses vitres devant un ciel de cendres. Elle sursauta quand une moto surgit de nulle part, frôla son rétroviseur. Puis une autre sur la droite qui envoya un coup d'accélérateur et tapa du poing sur sa portière pour lui signifier de s'écarter. Audra aperçut les phares d'un camion à remorque jaune sur sa gauche lorsqu'elle s'engagea au ralenti dans un tunnel dont les murs gris se resserrèrent autour d'elle, piégée sous des tonnes de béton, incapable de fuir en cas de problème. Elle aurait aimé réfléchir à l'enquête, synthétiser cette folle première journée, mais des suées anormales l'en empêchèrent. Des mains semblaient lui broyer les intestins. Le médecin de la Salpêtrière avait évoqué la manifestation probable d'effets secondaires comme de violentes attaques de panique. Où se cachait le poids lourd? Juste là. Il la suivait, elle, juste au cul de sa voiture. Impossible d'accélérer. Elle n'arrivait pas à voir le chauffeur, devinant à peine sa silhouette sombre. Ses doigts se crispèrent sur le volant et l'angoisse commença à gorger ses muscles de sang. Elle força le passage sur la première voie. Heurts au pare-choc, klaxonne en rafale. L'enchevêtrement de son bourdonna dans ses tempes. Manquant d'air, elle ouvrit grand sa vitre. Les odeurs de gasoil s'engouffrèrent jusqu'à la nausée. Elle referma aussitôt. D'une main tremblante, elle sortit son portable et pianota un SMS. « T'es là, chérie ?» Au bout de quelques secondes, on lui répondit. « Oui, je suis là. Comment vas-tu, Audra ?»« Mal. J'ai peur. J'ai besoin de toi. Parle-moi. » Coincée dans son habitacle, elle peinait à respirer. Elle se concentra sur l'écran lumineux, sur sa conversation. Faire le vide. Sortir d'ici, de ce tunnel, au moins par l'esprit. « Parle-moi. Parle-moi encore, Roland. » Entre deux messages, elle levait la tête pour avancer. Quand elle donna un violent coup de frein, manquant de percuter le véhicule précédent, elle comprit que sa vie ici tournerait au calvaire si la thérapie ne fonctionnait pas. Elle devait guérir coûte que coûte. Au bout d'une heure et demie de supplice, elle parvint enfin à bon port. Elle se gara rapidement et se jeta sous la pluie, aspirant l'air à grandes goulées bruyantes. On approchait de 19 heures et la grille d'entrée de l'entreprise était fermée. Audra se présenta au vigile. Elle avait de la chance, l'un des patrons traînait encore dans l'entrepôt. Bien sûr, le premier endroit où on l'envoyait était une entreprise de fret. Audra y vit là un signe du destin, une épreuve du feu. Déjà l'obscurité glissait le long des carrosseries des poids lourds rangés sur le parking. Leur haut pare-choc noir suggérait des bouches affamées et cruelles. La jeune femme évita de les regarder et courut comme en fuit une meute de loups. Elle se dirigea vers le long bâtiment de tôle noire. Une porte entr'ouverte libérait un fil de lumière, alors elle s'y faufila et referma derrière elle, dos contre le métal, soulagée. La pluie grattait de ses petites mains sur la tôle. Des colonnes de marchandises s'élevaient en immeubles serrés et colorés. Audra reprit ses esprits. Hefner Transport était spécialisé dans la grande distribution alimentaire et l'électroménager. Elle s'approcha d'un réfrigérateur emballé, se baissa au niveau de la palette. Le marquage se situait en retrait, mais en se contorsionnant, elle réussit à le lire. FRRH 5839-5. Pile le numéro détecté par Fortran et son équipe.
« Qu'est-ce que vous faites là ? »
Un homme en jean et col roulé, la quarantaine, se dressait derrière elle, une tablette numérique à la main. Audra lui présenta sa carte de police flambant neuve. « Brigade criminelle de Paris. » Drôle d'impression de dire ça. Elle s'efforça de prendre un ton de circonstance et lui expliqua que des palettes issues de son entrepôt avaient sans doute servi à étayer un trou dans lequel un cadavre avait été découvert. Cyril Bigot ne se laissa pas intimider. Il la dominait et son ombre recouvrait la jeune femme de la tête aux pieds. « Et alors ? Pourquoi les palettes proviendraient de mon entrepôt ? Vous vous êtes renseigné auprès du fabricant, je suppose, et vous avez dû voir que nous ne sommes pas les seuls à en posséder. » « Non, mais vous êtes les seuls situés en Seine-Saint-Denis et le crime a eu lieu à 20 kilomètres d'ici. »« Quel genre de crime ?»« Un homme dévoré à mort par un chien, au fond d'une forêt. Son visage ressemblait à de la confiture de fraises. Son foie lui sortait du ventre. » Bigot accusa le coup. Il rabattit le cache de sa tablette d'un geste lent. « Mince, c'est horrible. Et si vous êtes là, c'est que vous suspectez l'un de mes employés ?» « Je mène juste mon enquête. Je suppose que toutes vos palettes sont tracées. »« Nous subissons des vols de palettes comme n'importe quelle entreprise de transport. Si c'est là où vous voulez en venir... »« Qui vole ? Les employés ou des gens de l'extérieur ?»« Des gens de l'extérieur voleraient plutôt ces réfrigérateurs. »« Non, tout se fait en interne. Ce n'est un secret pour personne. Avant, les marchandises tombaient du camion. » Deux, trois bouteilles de Ricard ou des caisses de viande disparaissaient de temps en temps entre les transports. Mais la logistique des marchandises est désormais très contrôlée. On sait précisément qui transporte quoi à la bouteille près. Alors on se rabat sur tout ce qui reste et n'est pas sous contrôle informatique. Câbles, cuivre, palettes, on nous a même piqué des tuyaux d'arrosage qui traînaient derrière l'entrepôt. Les chauffeurs ont accès aux camions, aux quais de débarquement. Certains rentrent en pleine nuit. Il y en a qui cachent le matos et d'autres qui le récupèrent. Ce ne sont pas de gros vols, mais quand on dresse le bilan à la fin de l'année, ça fait mal, surtout dans le contexte actuel. Vous avez des soupçons ? Vous vous doutez que si j'en prenais un à la main dans le sac, je n'aurais d'autre choix que de le licencier, même pour une palette de bois. Mais ils déjouent les caméras et se protègent les uns les autres. Chauffeur, c'est un métier difficile. Les gars sont solidaires. « Nous, dans les bureaux, on est les méchants financiers qui touchent l'argent et restent assis sur une chaise à longueur de journée, vous comprenez ? Je ne peux pas vous donner de noms en particulier comme je pourrais tous vous les donner. »« Faites-le. Donnez-moi une liste. » Il glissa sa tablette sous son blouson et l'invita à le suivre. « Combien de chauffeurs travaillent ici ? » ?»« 23 chauffeurs et deux caristes. Avec mon frère... » On a créé la structure en 2003. Je vais vous imprimer tout ça, mais franchement, je ne vois pas qui pourrait être lié à votre affaire sordide. Le foie à l'air, vous dites ? Ils sortirent et contournèrent l'entrepôt en direction d'un préfabriqué. Audra remarqua la présence de 6 ou 7 véhicules stationnés en épi sur un parking et nota d'y faire un détour en sortant. Une fois installé à son bureau, Bigot alluma l'imprimante. « Savez-vous si l'un de vos employés possède un ou plusieurs chiens ? Une race puissante, genre pitbull ?»« Je n'en sais rien. Je connais mes gars sur le terrain, mais leur vie privée, ça m'échappe. »« Pas de rumeurs de combats illégaux de chiens ?»« Rien de tout ça, je suis désolé. Peut-être devriez-vous leur poser ces questions directement. » Audra sentait qu'il ne voulait pas d'ennui, ni avec les flics, ni avec ses chauffeurs. « Vous avez la possibilité de me dire qui ne travaillait pas la nuit de lundi à mardi, disons vers 22 h ?» Il consulta son ordinateur et entoura 6 noms. Ces 6-là roulaient encore. Tous les autres avaient fini leur journée aux alentours de 17 h ou étaient en récup. Elle le remercia, lui fournit ses coordonnées et sortit capuche sur la tête. Une rangée de lampadaires, en retrait de la grille, projetait leur aura verdâtre sur le bitume. La flic dévia sur le parking repéré plus tôt. Ces véhicules devaient appartenir aux chauffeurs encore sur la route. Elle jeta un œil dans les habitacles. L'état de propreté de certains intérieurs laissait à désirer, mais elle ne nota rien de suspect. Son attention se focalisa sur un véhicule de type utilitaire beige, cabossé en certains endroits, dont les deux vitres sur les portières arrière avaient été teintées. Elle lorgna par la vitre côté conducteur. Des mégots débordant d'un cendrier. Une bouteille de coca entamée sur le siège passager posée sur un blouson roulé en boule. Une paire de sandales sur le plancher. Elle aurait aimé trouver un élément trahissant la présence d'un chien. Couverture, laisse, collier ou poil. Elle revint vers les vitres arrière. Même avec son téléphone en mode torche, elle n'y voyait rien. Ce véhicule agissait sur son esprit tel un aimant. Et Audra savait à quel point son intuition comptait. Elle retourna dans le bureau et demanda à qui appartenait l'utilitaire. D'après Bigot, son propriétaire Emmanuel Prost, 28 ans, chauffeur dans l'entreprise depuis 3 ans, avait fini à 17 heures la nuit du meurtre. L'ordinateur indiquait qu'aujourd'hui, il avait livré en Belgique et devait rentrer ce soir aux alentours de 20h30-21h. Avant de regagner sa voiture, Audra fit comprendre au patron que sa discrétion leur serait précieuse à tous. Une fois à l'abri, elle parcourut les autres lignes du listing. La plupart des employés avaient entre 25 et 40 ans et habitaient dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Prost, lui, vivait à Goussainville. D'après le GPS, c'était à 18 km au nord et 52 minutes de route en tenant compte de cette fichue circulation. Elle regarda sa montre. 18h55. Elle avait le temps avant le retour de Prost. L'adresse, un simple numéro dans une rue, laissait supposer qu'il occupait plutôt une habitation individuelle. Audra pouvait s'autoriser un passage rapide en voiture, histoire de repérer les lieux sans plus et détecter dans la mesure du possible la présence de chiens. Juste pour faire taire cette fichue intuition.